Toulouse en 1886. Il n'en sortit que pour prendre une retraite anticipée provoquée par une santé déclinante. Il ne revint jamais vers l'université, bien que celle-ci lui ait tendu les bras à plusieurs reprises. À son ami Maurice Aguessac, qui était titulaire d'une chaire en Sorbonne et qui insista régulièrement pour qu'il le rejoigne, il répondait que le vrai enseignement se faisait à la source, là où les esprits ne sont pas encore formés. Quelle belle mission que de contribuer ne serait-ce que pour une petite part à construire ces vies naissantes, à tenter d'élever ces esprits, à être à la fois architecte et maçon. Qu'aurais-je à faire avec des étudiants entièrement dévoués, petits soldats d'une armée stérile, d'une secte dont je serais le maître? Ma place n'est pas là, mon cher ami. J'ai gaspillé mes plus belles années en aveuglement. Désormais, je veux y voir clair. Je n'aspire qu'à rester le gardien de cette petite flamme qu'est le savoir. Hélas ! On n'ignorait pas que si Charles Pursault était devenu un nom incontournable dans son lycée, ce n'était pas en raison de sa science ou de ses talents de pédagogue. Ses leçons étaient certes riches, intellectuellement très ambitieuses, mais arides et trop touffues à la fois, comme une immense forêt trop dense qui égarait et étouffait les imprudents qui y mettaient un pied. Charles Pursault faisait cours dans le vide. Même les plus sérieux et les plus sages de ses élèves se décourageaient rapidement, vaincus par l'élitisme du maître, les sources citées dans leur langue d'origine, des penseurs grecs à Jean-Jacques Rousseau, des juristes romains à Descartes. Personne n'écoutait. Et comme l'homme n'avait guère d'autorité sur les jeunes garçons qu'on lui confiait, les heures d'histoire tournaient à la pagaille générale. On bavardait, on jouait, on faisait n'importe quoi d'autre. Et le professeur Pursault faisait mine de ne s'apercevoir de rien. Il continuait sa classe inlassablement, faisant les 100 pas sur son estrade, la voix monocorde, les mains croisées dans le dos, le regard fixé sur le bout de ses souliers. Sa réputation avait été vite faite. Même chez les plus jeunes, on la connaissait. Et le jour de la rentrée, quand on égrenait le nom des professeurs, on ne pouvait s'empêcher de glousser dans tous les rangs alignés dans la cour d'honneur quand le sien arrivait. La direction du lycée s'alerta bien vite de la situation. Moins de 2 ans après sa nomination, le proviseur d'alors envoya un courrier à l'inspection. D'autres suivirent pendant toutes ces années et chacun resta sans réponse. Charles Pursault avait la chance d'avoir des compagnons d'études qui étaient devenus des personnages influents. On racontait même qu'André Claverie, qui devint le directeur de l'école normale de Toulouse en 1902, était l'un de ses plus fidèles protecteurs. Charles Pursault passa sa carrière à être un professeur chahuté, raillé, injurié. Il ne se plaignit jamais de l'enfer qu'il vivait au quotidien. Mis à part l'incident du début de l'année scolaire 1909, on ne le vit jamais réagir, se mettre en colère ou s'effondrer. Tout cela semblait glisser sur lui, comme les critiques de ses collègues, comme les blâmes de la direction. Ce n'était même plus de la lâcheté, c'était de l'indifférence. Avec les années, un rituel s'était mis en place parmi les élèves, et on se le transmettait de promotion en promotion. Dès qu'il entrait dans sa salle de classe, on obéissait au règlement et on se levait. Mais on accompagnait cette marque de déférence par un murmure collectif, une déferlante d'une trentaine de voix étouffées qui n'en faisait bientôt plus qu'une. Pursault, Pursault, Pursault. Le physique ingrat du professeur, l'ennui qu'il déclenchait dès qu'il ouvrait la bouche, ses manières austères venues d'un autre âge, ses vêtements râpés de vieux garçon, tout concourait à jouer ainsi avec son patronyme et rendre cette légère transformation crédible. Cela n'en était que plus amusant, et lui ne disait rien. Sans aucune émotion visible, il écrivait le titre de la leçon du jour au tableau. À peine pouvait-on remarquer qu'il serrait les dents à se les briser les unes contre les autres. Comment put-il tenir dans ces conditions? Son ami Aguessac avait trouvé l'explication, pensait-il, après s'être longtemps inquiété pour celui qui avait été son grand complice. Charles Pursault avait tout simplement plusieurs vies. Ces vies l'avaient détourné de sa voie et étayaient son quotidien. Son métier d'enseignant n'était qu'une partie, pas la moindre, certes, mais la plus obscure. Le reste n'était pour lui que lumière, et cette lumière le tenait debout, chaque heure, tel le point lumineux qu'on entrevoit lorsqu'on traverse un tunnel. Le lycée, les élèves, c'était le tunnel. La première des autres vies de Charles Pursaud lui était tombée dessus à l'improviste. C'était les Pyrénées. Il tomba éperdument amoureux de cette montagne dès qu'il s'en approcha. Il y revenait dès qu'il le pouvait, prenant une chambre dans une pension de famille de la vallée, ou bien bivouaquant parfois là-haut, quand la saison le permettait. Il marchait seul des heures durant, gravissant d'un bon pas les pentes escarpées, goûtant cette solitude et ses efforts récompensés quand on débouchait sur un balcon dominant des étendues vertigineusement vastes, quand on tombait sur un petit lac aux eaux parfois encore glacées, une bergerie en pierre sèche, un cirque où venaient s'abattre les eaux surgies des profondeurs, gonflées de la neige encore récente. Il s'arrêtait, contemplait, observait. Il sortait son carnet et dessinait ou écrivait, libre de toute contrainte. Il n'y avait plus de notes scientifiques, mais des pensées, des sensations, des petites histoires. Il laissait son esprit vagabonder, sans entrave, y compris celle de pouvoir être lu, car il brûlait un à un ses carnets sitôt la dernière page noircie. Il devenait léger tout en haut, déjeunait d'une belle tranche de jambon à la couenne épaisse, d'un fromage de brebis acheté avant l'Ascension. Il se sentait bien là, tout petit, face à la nature colossale, mais tout à fait certain d'avoir une route à tracer, une place, un rôle. Rien à voir avec ce qu'il avait ressenti à Delphes ou à Syracuse. Là, il avait été écrasé par le poids du passé. Il y était venu comme on entre en religion, l'esprit soumis et la tête courbée. Dans ses Pyrénées chéries, il allait le dos droit, le regard porté vers l'horizon. C'est pour la deuxième de ses vies qu'il fit quelques infidélités à ses montagnes, qu'il voyait par temps clair des fenêtres de son appartement du quartier Saint-Cyprien. Elle aussi lui tomba dessus à l'improviste, dans le siècle finissant. Elle s'appelait Marie. Elle avait 22 ans. Elle était aussi jolie que Charles était laid, aussi gaie qu'il était sombre, aussi chaleureuse qu'il était maladivement timide. On ne sut jamais comment ils s'étaient rencontrés, ni comment la jeune femme avait pu tomber amoureuse de lui, qui semblait en tout point son contraire, et qui la devançait dans l'existence de près de 20 ans. Mais ils s'aimèrent sincèrement, et se marièrent au premier jour du printemps 1900. Ce fut un mariage modeste et dépeuplé. Charles était seul au monde, et la famille de Marie condamnait cette union. Mais ce fut une belle journée. Les quelques amis présents, notamment ceux de l'époux, se félicitaient d'une telle union. Mais officieusement, on faisait comme les autres, comme ceux qui n'étaient pas venus. On trouvait le couple mal assorti, on promettait sous cap malheur et tristesse à la jeune épousée auprès d'un mari aussi austère et désargenté. Une fois de plus, on se trompa. Ils furent heureux, tous les deux. 2 ans plus tard naissait une petite fille, Camille, dont Charles se félicitait qu'elle soit le portrait craché de sa mère. Peut-être ces heures-là furent les plus heureuses qu'il vécut, ces moments rares qui donnent tout leur sens à la vie. Hélas, Charles fut fauché en plein envol. Marie contracta une pneumonie l'hiver qui suivit la naissance de sa fille. Si les médecins parvinrent à la sortir de là, une ombre s'étirait désormais sur leur existence si harmonieuse. Le soleil se cacha derrière les nuages. Marie mourut en janvier 1906. Elle laissa Charles avec sa seule raison de vivre désormais, la petite Camille. Les montagnes même ne purent jamais réussir à le consoler. C'est en octobre 1907 que Martial de la Boissière était entré au lycée national de Toulouse. Il avait 13 ans et arrivait de la région bordelaise. On savait de lui que son père était mort depuis longtemps, que sa mère était remariée avec un riche viticulteur et qu'il n'était plus vraiment à sa place auprès d'eux. Renvoyé de plusieurs établissements pour des faits qui restèrent ignorés de la plupart, on l'avait envoyé en pension à Toulouse, loin, et il n'en sortait même pas pour les vacances de Noël. Martial se révéla...